Radio Sonic Protest.
Radio Sonic Protest.
Pendant 3 semaines, hein, quand même, pendant toute la durée du festival. Projet qu'on a commencé il y a quelques années timidement avec Arnaud. Et du coup, là, David, tu as repris le. T'as vu, je t'interview en fait. David a repris en main les choses. Et là, il y a vachement de live, vachement d'enregistrement. Enfin, c'est vachement vivant. Et donc là, aujourd'hui, on est au théâtre Berthelot.
Ouais. Et merci en tout cas Franck. Moi je suis hyper fier de pouvoir participer à Sonic Protest parce que je suis un happy few quoi. Ça fait des années que je viens voir des concerts et que je me prends des grosses claques. Je te connaissais aussi d'avant de ta boutique Bimbo Tower où j'ai découvert plein de groupes aussi comme France. Et on en profite un petit peu pour discuter aussi avec les gens qui sont partenaires, c'est ça ? En l'occurrence, on est avec Patrice.
On peut même dire ami, en fait. C'est vrai qu'il y a un côté partenariat, hein, mais faut que tu prennes un micro, Patrice. On est avec Patrice Caillet.
C'est bien, bonjour.
Ça fait plaisir d'être avec Patrice. Ça fait un bout de temps qu'on fait cette collaboration. Alors nous, on se connaissait d'avant un peu. Enfin, je suivais un peu ce que tu faisais, et tu vas nous en parler en édition. Tu organisais des expos, des concerts, etc. Des musiciens aussi. Mais là, on s'est vraiment rencontrés dans le cadre du Sonic Protest pour faire un partenariat. On fait des concerts régulièrement au théâtre Berthelot.
Bah ouais, c'est toujours un grand plaisir.
Je sais pas comment ça a commencé cette histoire. Je pense qu'il doit y avoir les instants chavirés
pour le lien. C'est les instants pour le théâtre qui ont fait le lien. Après, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu un grand admirateur de ce festival.
Merci.
Et puis on a des affinités, je pense, quoi, tout simplement. Et puis c'est toujours plein de choses à découvrir. Alors ici, on est dans un théâtre municipal avec une vocation quand même, avec une palette assez large de programmation. Mais du coup, la ville et aussi la proximité des instants et d'autres partenaires nous encouragent, en tout cas dans le projet actuel du lieu, à proposer des formes comme ça un peu singulières. Alors on peut au mois de. C'était chouette là, en sortant juste du confinement par exemple, on a eu de la danse avec danse contemporaine avec Pauline Tremblay et Danse. On a eu une troupe du Mali avec un autre festival qui est vraiment chouette, festival de l'imaginaire, la Maison des Cultures du Monde, ouais. De Marie de Bozo, c'était carrément bien. Et on a fini avec Sonic Protest. C'était encore plus génial, quoi, donc grosse bouffée d'air. Quoi. Voilà.
On est à Montreuil.
Et on est à Montreuil.
Et toi, c'est quoi ton rôle au théâtre Berthelot, ton poste
de... Je fais la programmation.
T'es le programmateur.
Tout simplement. Je compose, en fait. Voilà, c'est une programmation un peu assemblagiste, comme ça. C'est un peu... Donc, y a du théâtre, de la danse,
des musiques. Et alors, du coup, moi, parce que je t'identifie sur la musique au départ, le lien avec la musique, après avec le graphisme, l'art, mais du coup, la danse, le théâtre, c'est aussi quelque chose qui te... que tu connais à la base ou c'est en arrivant ici que tu...
Non, c'est un hasard total en fait. Sur le théâtre, j'étais pas spécialement pratiquant, on va dire, ni réellement trop amateur finalement, quoi. J'aimais bien les pièces radiophoniques, mais j'avais organisé en arrivant ici, j'avais organisé un titre perso en tant qu'asso, un petit festival. Un petit événement, un week-end qui réunissait des pointures du free jazz, on va dire. Il y avait Bernard Vité, François Tusk, on passait des films aussi, New York Alien Control, et puis il y avait des petits jeunes, là, il y avait Projet Singe qui venait bidouiller qui venait jouer le journal de 20h en direct.
Et là, tu étais intervenant extérieur.
Ouais, c'était en tant qu'asso. J'avais pris l'initiative de faire ça avec des copains, quoi. À l'arrache, au conservatoire. Et la programmatrice du théâtre de l'époque, en fait, était venue. Et elle avait dit, mais c'est super, c'est un mec comme ça qu'il nous faut.
Parce que ça veut dire qu'elle
lâchait son... C'est dire l'état d'esprit de...
Elle partait du... Parce que si elle-même était programmatrice, elle...
avait besoin d'un médiateur culturel à l'époque.
Médiateur culturel.
Et en fait, le théâtre ici, c'est un projet qui se remettait en place, donc il y avait plein de choses à refaire. Et puis elle a un peu de cette époque-là. Voilà, son frère, un réalisateur, là, c'est Jacques Bagnon. Son pot de départ, on l'a fait avec Jacques Birocal et Marie Moore.
Rien que ça.
Et puis voilà, l'affinité a collé. Je suis arrivé là un peu par hasard. Et puis du coup, après, sur la danse, finalement, ça me travaillait depuis hyper longtemps, cette histoire, quoi. Et puis je jouais de la danse, puis ça me fascine, quoi. Voilà, mais c'est vrai que le théâtre, c'est un complet hasard, quoi. Mais ce qui ne m'empêchait pas de m'intéresser. Moi, j'adorais les pièces radiophoniques, j'en écoutais plutôt, j'y allais pas, quoi. Parce que moi, j'étais à La Rochelle, il y a un peu de théâtre, mais j'y allais pas tant que ça, quoi.
Alors, c'est ça qu'on aimerait bien savoir. Maintenant, on veut tout savoir de ta vie. Parce que là, ça y est, maintenant, on sait comment t'es arrivé au théâtre, ouais. Berthelot, comment t'es devenu le programmateur. Il faudrait peut-être aussi que tu nous dises deux mots sur un festival que tu organises tous les ans. Mais avant, si on faisait un petit historique, tout démarre à La Rochelle.
Ouais,
presque tout.
Tout démarre à La Rochelle.
T'es musicien.
Tout
aussi.
Démarre à La Rochelle.
Moi, j'ai vu des archives. Ouais, j'ai vu des photos. Des photos.
Non, je jouais comme un pied. Tout démarre à La Rochelle avec deux, trois copains. Cyril Babin, Lilian Maillet et Laurent Blazic, dont on a ressorti un disque là, avec El Blazic, là, ainsi de suite. Donc. Puis on faisait les cons, puis comme beaucoup. Hein.
Attends, Blazic, mais c'est toi qui as sorti ça? C'est où je confonds? C'est le...
Ça, c'est le label
de
JB, là, qui a sorti ça. Mais c'est des enregistrements refaits, ainsi de suite. Mais à l'époque, on faisait un peu les rigolos ensemble.
Ah, mais d'accord.
Moi, j'ai sorti un petit 45 tours il y a très très longtemps, avec lui, fait à l'arrache, dans un truc. Voilà, c'était un état d'esprit un peu de rock garage, quoi, en fait.
Ouais. Assez décalé, quand même, aussi.
Ouais, puis nous, on aimait bien les trucs, là, comme beaucoup. On est traîné dans les usines du port de la Palice, dans la ferraille, dans les trucs. On se fascinait, enfin, on était un peu épris de trucs dada, là. On découvrait la vie, quoi.
mais c'est marrant, parce que t'en parles comme si c'était normal, mais le mélange... du garage et de dada, déjà, c'est pas courant, quand même. Enfin, je veux dire, il y en a peut-être, vous êtes peut-être nombreux, mais c'est vrai que les styles de musique sont vachement, enfin, à cette époque-là, en plus, j'imagine, plus que maintenant, étaient vachement compartimentés. J'ai l'impression que le rock,
ouais,
c'était
ça. C'est vrai qu'on évoluait plus dans un musicalement, en fait. C'est un peu aussi grâce à ta boutique, hein. Moi, j'ai découvert aussi quelques trucs, là, quelques projets que je connaissais pas, là, genre les réalistes dénudés, ce genre de trucs.
Ouais, pareil. Ouais.
Tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Et on était quand même musicalement dans une sphère un peu garage, mais à côté de ça, par exemple, on écoutait beaucoup on allait à la médiathèque pour écouter des disques de free jazz, quoi, d'Ornette Coleman, qu'on prenait un peu au hasard au départ sur les pochettes. Et puis après, voilà, moi, je suis encore arrivé à Paris, je suis tombé par hasard sur des concerts au studio des Ilettes où il y avait Arthur Doyle et Alan Silva,
Jimmy Merlet.
Et voilà, et puis du coup, tu dis ouf. Et puis,
t'as pas de parcours Beaux-Arts et compagnie?
Parce que si, ça, un peu, ouais.
ça y ressemble.
Ça y ressemble un peu, ouais. Ça y ressemble un peu. Mais du coup...
C'est marrant parce que ce parcours avec la médiathèque, moi je suis toujours très hyper respectueux du côté médiathèque, parce que j'ai découvert des tonnes et des tonnes de choses en médiathèque. Et j'encourage vraiment les gens à continuer à aller dans les médiathèques. Il y a la médiathèque des Halles à Paris qui fait des trucs super, qui fait en ce moment, je fais un petit aparté, tout un programme sur Folkways. Une expo thématique, etc. Et c'est vraiment un endroit. Et je pense que ma découverte du free jazz vient aussi de la médiathèque.
Ah bah ouais, bien sûr. Puis des musiques du monde, tous les disques au choral. Il y avait une vraie idée du service public de la musique,
ouais.
qui est fascinant. Enfin, on amenait notre tête de lecture et puis tu repars en fait avec des disques juste parce que tu dis, ah, la pochette elle est intrigante.
Oui, ça permet de prendre le risque de... Enfin voilà, chez les disquaires c'est cher.
Mais
il faut un budget.
C'est vrai que là, moi il y a plein de disquaires à Bordeaux. Il y avait un ami là, qui a une boutique Rocarola qui avait des disques un peu dingues, et puis en arrivant à Paris, voilà, puis t'as eu la gentillesse aussi de prendre mon livre de pochette gribouillé, modifié.
Exactement. Parce
et
que
t'en avais vendu plein, moi ça m'épatait.
Alors ça c'était le... Redis le titre exact.
Alors ça s'appelle le discographisme récréatif, quoi, et du coup il y a eu deux volumes.
Ouais c'est ça, il y a deux volumes.
De pochettes modifiées par des inconnus, puis trouvées sur des brocantes, collectées, et voilà, ça, c'est un petit...
C'est complètement fascinant ce bouquin. Moi je sais pas, à chaque personne à qui je le montrais, enfin je savais un peu à qui le montrer, mais il repartait avec quoi. À partir du moment où tu t'intéresses à la musique, à la culture populaire, à l'art brut, à tous ces trucs-là, ça ne peut que te parler quoi. Je me souviens très bien de ça.
Et puis un petit côté lecture qu'on partage, je pense, à approximation sur l'art, tout simplement. Quoi. Faites maison, les pratiques un peu hasardeuses, approximatives, moi, c'est toujours un peu ce qui m'intéresse dans la pratique artistique. Quoi.
Et la culture aussi de Emmaüs, quoi. Chiné, les brocantes, les trucs. C'est là où on fait des découvertes complètement incroyables, quoi.
Ouais, moi d'ailleurs, Patrice, je suis content de te rencontrer parce que un ami à moi m'a présenté l'année dernière Elia David, qui m'a offert un disque auquel tu as collaboré avec lui. Vous avez une passion pour les enregistrements des audiomatons.
Ouais.
Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce projet et combien de temps ça t'a pris pour recueillir tous ces documents.
Bah là, du coup, on est trois sur ce projet avec Elia, David aussi, le frère d'Adam. Et voilà, c'est toujours dans la prospection, les puces, trouver des objets un peu singuliers comme ça. Et il s'agit de disques qui étaient enregistrés c'est des exemplaires uniques. En fait, on rentrait dans une cabine photomaton, on mettait une pièce, on enregistrait un message adressé à son tonton, sa tata, sa petite cousine, ou un petit message. Sur le disque en question, on a un couple qui s'intéresse à leur chat, par exemple, qui est resté à la maison, quoi. Il y a des trucs assez dingues, puis des gens ivres qui rentrent dans la cabine, des gens qui font du rock, des copains.
Et ça, c'était en France, donc
parce que c'est international, en fait.
Ouais, d'accord. Parce que ça naît aux États-Unis. Enfin,
oui, ouais, je pense que ça a dû naître aux États-Unis très tôt, même dans les années 30. Et il y a la marque, alors c'est compliqué, on n'a pas énormément de... La marque en fait se décline en fait sur les grandes villes des pays un peu européens on va dire quoi. Mais il y a Mio Disco, Calibre, après aux États-Unis c'est Voiceograph, mais on en trouve un peu partout quoi. Mais du coup comme c'est des enregistrements, enfin des disques uniques, ils se sont perdus, ils ont été détériorés, donc on les retrouve uniquement soit dans des placards, soit...
Ouais, quand il y a une maison qui est vidée.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment dans les grandes villes plutôt, quoi, dans l'espace public, des gares peut-être, ou des grands magasins.
Il y a un artiste qui s'appelle Flo Kaufmann qui était venu à Sonic Protest et qui nous avait fait au Cirque Électrique une cabine comme ça. On a enregistré, moi j'ai participé, j'ai mon disque unique. Je crois que j'avais un dictaphone ou un truc sous la main, parce que je savais qu'il allait y avoir ça, et il a enregistré comme ça toute la journée plein de trucs, et les gens repartaient avec leur disque. C'était génial. Il est super intéressant d'ailleurs, Flo Kaufmann. Il faudrait faire une émission sur Flo Kaufmann. Ouais.
Mais je suis partant.
Et voilà, du coup, sur ces disques, on entend voilà des messages de un peu anonymes quoi en fait, des fois rigolos, spontanés. Il y a des choses des fois dramatiques, des déclarations d'amour, des choses. C'est des moments, des instants de vie comme ça.
Il y a de la musique.
Il y a de la musique. Il y a des gens qui rentrent faire avec une guitare ou sans, faire un rock, un twist avec les copains derrière. Là, il y en a un qui est hyper drôle où le type vraiment ferait vraiment son rock un peu là yéyé, et puis ses potes sont derrière, donc il y a tout le hors-champ de la cabine avec les mobilettes qui passent, ainsi de suite quoi. Donc on entend un peu puis le dernier pote, le bon copain à la fin, re-rentre dans la cabine et dit Gérard est un con ou un truc dans le genre quoi. C'est, donc forcément ça enregistre, les cousins sont...
Alors même si la qualité du support est quand même assez médiocre, il y a un truc qui m'a frappé moi, c'est déjà en premier c'est on a l'impression d'entendre ces voix des vieux reportages télé où les gens, on a l'impression que leur voix est un peu comme si on se pince le nez, tu vois. Et puis c'est ouais tu sais il y a un truc mais il y a aussi une couleur de l'époque quoi, une espèce d'insouciance aussi qui émane de
ces enregistrements. Je pense que c'est la manière de s'exprimer, le ton qui forcément est très les jeunes filles un peu étudiantes, c'est toujours un peu ce, mais ce qui est intéressant avec le temps c'est aussi l'espace de la cabine quoi. En fait, un type complètement ivre qui chante du flamenco, qui hurle avec son copain très près du micro, ça donne une résonance particulière. Et l'altération du disque, par exemple, aussi, si le disque est très très usé, en fait, finalement, ça a rajouté un petit côté noise assez intéressant avec des apparitions, disparitions des fois de texte. Donc il y a un peu les deux, quoi. Il y a la prise de son dans cet espace clos avec leur chant, la position des gens dans la cabine, s'ils sont nombreux, par exemple, qui est intéressante. Et puis, du coup, il y a aussi le support lui-même, quoi. Et ça, les supports, c'est aussi un truc qui nous intéresse.
Et parce que, justement, ces disques-là, ils avaient des pochettes ?
Pas spécialement. Enfin, on en a trouvé avec des pochettes...
Personnalisées, quoi.
Non, des pochettes qu'on peut envoyer par la poste, quoi. On a trouvé un qui est super beau, c'est une jeune fille qui est en haut de l'Empire State Building, qui envoie un petit qui habite au Canada et qui envoie un petit mot à sa famille en France dans un bled. On imagine la famille autour de l'électrophone.
Écoutez le truc. Quoi.
Et elle est surexcitée en haut de l'Empire State Building et le déplacement du sillon sur le disque ou la graffure crée une espèce de souffle comme ça et on s'y croit quand on pourrait se dire finalement ça crée une espèce d'ambiance sonore alors c'est que le support qui produit ça, mais elle est tellement excitée qu'on est avec elle en haut de l'Empire State Building, c'est super.
Et moi j'ai entendu un peu je sais pas si c'est une légende mais autour de ce disque qu'il était un petit peu distribué de manière il y avait de l'incruste l'incruste clandestine.
Parce qu'en fait, il s'agissait pas de faire un label ou de ces choses qui viennent de l'anonymat. C'était un peu pathétique, je trouve, de le commercialiser, quoi. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de l'éditer à plusieurs centaines d'exemplaires, mais de le remettre dans l'espace public. Comme ça, des gens peuvent le trouver. Après, c'est un disque qui peut s'offrir, c'est rigolo de le déposer dans des photomatons, chez des disquaires, Opus, de l'abandonner dans un cimetière, dans une église.
Mais il y en avait combien ?
Plusieurs centaines.
Et il y en a plus, j'imagine.
Non, il y en a quasiment plus. On envisage de refaire un truc sérieux, parce que ce qu'il faudrait, c'est faire une espèce de fond, en fait, avec beaucoup d'enregistrements et de faire un vrai site où on peut les mettre à disposition.
Parce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont obsédées par ce genre
BBC, de... À la BBC, on a trouvé, il y a eu une émission ou une ébauche de projet autour de ce sujet-là. Ça n'a pas été très loin et je pense qu'il y a une belle matière à faire.
Il me semble que justement, en médiathèque, j'ai emprunté une compilation, plutôt en CD, qui vient plutôt un truc américain. Qui recense aussi un peu des... Mais alors, c'est peut-être pas exactement les mêmes trucs, c'est peut-être plus aussi, dans mon souvenir, pas forcément des trucs à un exemplaire, mais tu sais, des micro-éditions
des labels
un peu amateurs, où tu pouvais quand même en faire plus qu'un. Parce que dans mon souvenir, il y avait plus de musique, entre guillemets. Mm-hmm. C'était plus des choses de musique plutôt que des choses juste parlées, quoi. Mais il faudrait que je retrouve les références de cette compilation.
Et qu'est-ce que tu collectionnes d'autre
Les disques de silence avec un autre ami, Mathieu Salama. Et d'ailleurs, nous, on a eu la chance, et là, c'était quand même assez incroyable d'être invité par Sonic Protest il y a quelques années pour faire la première partie de Merzbow. C'était quand même vraiment plus que judicieux.
C'est énorme.
DJ Silence.
Ouais. Et c'est étonnant parce que dans l'église Saint-Méry, finalement, les gens, nous, on jouait des silences qu'on avait choisis en plus parce qu'on a plein de morceaux de silence. Ça, c'est un disque qui s'est fait aussi avec Adam David et Mathieu Salana. On jouait des playlists de silence sélectionnées pour l'occasion, quoi. et il y avait un silence vraiment religieux dans l'église.
Les gens venaient nous voir.
Moi, je m'étais dit, ils vont aller boire des coups, couvrir le truc. C'est pas trop rigolo qu'ils balancent des dizaines de silence. Et en fait, c'est étonnant.
Non, vous aviez l'air investi dans votre mission. Vous deviez être super sérieux et les gens étaient respectueux.
C'était très étrange comme situation parce que tu voyais des mecs qui étaient vraiment à donf en train de passer les scuds. Il n'y avait pas de son. Il y avait des gens qui attendaient que ça commence peut-être. Et il y a des gens qui venaient nous voir. Non, mais il y a un problème, technique. Là, il est où j'ai son. Non, c'était assez... Je sais pas si on a expliqué ça à Merzbo.
Ah, je sais pas. Avant. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on a mangé ensemble. Mais du coup, il était tellement dans son truc. On n'a pas du tout...
Otaku.
Ouais. Mais non, mais c'était drôle. Par contre, c'était intéressant de faire ça. Je pense que bravo, merci.
Ah bah non, mais nous, je pense que ça a été une évidence. Quand le disque est sorti, on s'est dit que... Et puis voilà, après, avec Merzbo, c'était parfait.
Parce qu'après, on avait l'idée de...
Vous avez poussé le projet avec...
On a poussé le projet avec Mathieu et Adam pour créer une société qui s'appelle Silent Entertainment pour proposer du silence sur mesure. Par exemple, on avait sonorisé une pièce de théâtre, celle de Mathieu Bauer, là, ici, à Montreuil, qui avait fait une pièce sur Peter Zandi, sur écoute, justement. Donc ça, et on lui a dit, écoute, ça t'embête pas, on diffuse du silence pendant ta pièce, comme ça, si les gens décrochent, ils peuvent se réfugier. Mais c'est pas simple à exister, parce que c'est intervenir sur le travail de quelqu'un d'autre, finalement. Et puis l'annonce de départ disait, Silent Entertainment propose des animations silencieuses pour vos cocktails, vos vernissages, vos rencontres. Alors du coup...
Et alors vous avez eu beaucoup de contrats ?
Ouais, si, on a à Marseille, on a enregistré du silence dans une galerie sur un jour férié, un dimanche, pour le diffuser sur le temps de travail, par exemple. Tu vois, c'est ce genre de...
C'est une sorte de thérapie par le silence. Quoi. Ah, ouais.
Et moi, je reste de sonoriser le Lac Clément en quadriphonie. Mais ça, c'est pas bien.
On fait un appel à don, d'ailleurs, sur Radio
de manière Protest. Silencieuse.
Si vous avez un budget pour investir. Mais je reviens juste sur le disque précédent, parce que comme il n'était pas vendu, comment vous faites ? Vous êtes ultra riches tous les trois ou vous avez un financement ?
Non, on a fait au plus cheap. En fait.
Ouais.
On a fait un simple disque monoface, vraiment pas cher, avec des pochettes, photocopies.
Et c'était encore avant le prix de... Enfin, c'était encore avant l'augmentation du prix du vinyle, parce que maintenant, le vinyle, je sais pas où on en est là, mais...
Ouais, puis je pense qu'aussi c'est une manière de clore un chapitre et de rendre hommage un petit peu à toute cette période qu'on a... moi, j'ai pas connu, peut-être que toi, tu l'as connu quand t'étais môme, non,
absolument pas, non.
Non, c'est bien avant, hein, je pense. Hein,
je pense que ça s'est arrêté dans les années 70, avec l'apparition du magnétophone, tout simplement, je pense.
Ouais.
Le magnétophone à la maison, quoi.
Oui.
Mais non, je pense que c'est... Enfin, moi, j'en ai jamais vu des cabines en vrai fonctionner. Hein. C'est vraiment un truc
C'est années 60,
très, très particulier. Ouais. C'est vraiment les années 60 ou les années 50 aux États-Unis. Et on existe, je pense, encore dans les années 80, peut-être dans des parcs d'attractions, des choses comme ça. Une copine m'en a envoyé un enregistrement des années 80, je pense, où il y a une reprise de Bonnie Tyler ou un truc dans le genre. Donc, ça peut pousser jusqu'aux années 80, mais...
Mais c'était c'était une autre ça s'est déplacé dans les fêtes foraines dans
peut-être truc, comme les films de Méliès qui a joué au théâtre Berthelot.
Ah, attention, vas-y, raconte. Hein. C'est quoi cette histoire?
C'est séquence historique.
Parce qu'il y a les studios Méliès pas loin.
Ouais,
les anciens studios Méliès.
Ouais. Oui, à côté.
Parole errante, du coup.
C'est là qu'a été tourné le fameux film
Voyage dans la Lune, par exemple. Mais studio rasé, il reste plus rien, c'est juste l'endroit en fait. Et puis Méliès a joué là en 1923, en fait, on avait reçu sa petite fille, il avait joué une opérette. Et je pense, après avoir fait faillite, tout simplement, quoi, je pense que... Ouais.
Le festival que tu organises tous les ans, tu en causes un peu ?
Oui, Et ben... festival qui n'en est pas un, c'est plutôt un assemblage de programmation avec des collaborations, des partenariats, des projets qui nous sont proposés aussi. Et puis ce que j'expliquais justement quand je suis arrivé, en fait, cette idée de proposer des formes parfois un peu singulières comme ça dans cette programmation, après le festival de l'imaginaire, la danse, ainsi de suite. Ouais, je me disais, c'est intéressant de vulgariser sous ce terme un peu bizarre, comme ça, l'idée des pratiques un peu plus expérimentales, avec un truc un peu générique. Donc il y a de la danse, il peut y avoir du théâtre.
La semaine du bizarre, hein, ça s'appelle.
Ouais. Mais les premières années, il y a eu par exemple Hermine Caragueuse, une actrice qui est venue avec des textes de René Dommal, Hubertus Biermann avec des textes de Kurt Schwitters, justement, une compagnie de théâtre, le TOC, aussi sur Raymond Roussel, comment j'écris mes livres. Puis forcément de la musique expérimentale, la proximité des instants, il y a aussi une soirée avec Sonic Protest, ou deux, et puis toujours des échanges en lien, et la toute première, c'était vraiment le hasard, en fait. La toute première, c'était Guédalia, Axane, la sorcellerie à travers les âges, et Pierre Bastien. Voilà. Moi, j'ai adoré Pierre Bastien, je lui envoie un petit mot, il me dit « Ouais, je veux bien. »
Ouais, je me souviens, ça.
Et voilà, mais pas dans l'idée de faire un festival. C'est pas, je n'appellerais pas ça un festival, plutôt un assemblage de
propositions. Oui, c'est le fait
annuel, en fait, qu'il n'y a pas...
Pendant une semaine, quoi, c'est ça qui donne le côté un peu...
Et ça se déroule quand ?
Ça se déroule en décembre.
Décembre.
Ouais. Tout début décembre. Avec un collectif informel qui s'appelle le collectif des autochtones du bizarre.
Okay.
Alors, on trouve des gens du coin. Il y a Jérôme Poré avec qui aussi on travaille, on collabore aussi de temps en temps, qui lui propose des revues phonographiques. C'est hyper intéressant sur les supports phonographiques notamment. Et on invite Jalal Haro du Phonomuseum à jouer des machines et à proposer des machines du début du siècle sur des cylindres en cire par exemple. Et d'autres artistes. Je me souviens de Quentin Rollet, par exemple, a joué du saxophone sur un cylindre. On a reproduit donc son son sur un cylindre. C'était réenregistré sur un autre cylindre. Une petite formule comme ça.
T'as déjà la programmation du prochain ? Enfin, de la prochaine semaine ?
Non, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui se fait toujours en dernier et toujours à l'arrache.
Okay.
C'est un peu sur le hasard et des
le moment, quoi.
Du moment. Ouais, ces gens-là, c'est vrai que c'est un peu... Non, on était sur... Il y a eu des choses annulées, forcément, parce que la saison dernière, mais là, non, pas encore.
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. T'avais encore des questions ou...
Non, de toute façon, si j'ai encore deux questions, je vous les poserai personnellement plus tard, mais ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas.
Après Sonic Protest, c'est quoi le prochain événement
au théâtre bientôt?
Je te prends un peu au dépourvu là.
Ouais, tu vois, je sais même plus. Au théâtre, moi je vais faire un petit break parce qu'on va avec Jérôme, justement.
Jérôme Poré
Jouer des disques. Moi je joue des disques un peu défoncés. Justement, au dernier Sonic Protest, j'ai un peu testé
magnifique.
Ça, des disques trouvés dans les poubelles qui sont presque plus des disques parce que du coup c'est leurs derniers instants et que du coup. On en sort toujours quelque chose, ça sonne toujours de manière assez intéressante. Quoi. Et donc mon travail c'est un peu de pister ce qui est intéressant là-dessus, sans modifier. Moi, je trafique pas, je mixe pas, je les joue brut, quoi. Et Jérôme, il joue des objets sur des platines qui sont plus des disques. Donc, on a invité Archipel à Genève, là, pour faire ce petit truc sur une semaine. Où on va jouer.
Vous jouez ensemble, du coup ?
On va jouer des trucs présenter, on va avoir une espèce d'un stand, tu vois, et avec trois sets, quoi, avec nos trucs de brocante. Ça fait partie de la mission d'aller au puce, là-bas, sur place, ou chez Disquaire, récupérer des trucs.
Il y a un budget Chine.
Ouais, c'est bien organisé. Et du coup, voilà, moi je vais partir à la recherche de trucs trouvés, de disques gondolés. J'en ai déjà, j'en amènerai. Mais... Et puis Jérôme jouera des objets qui sont plus.
Qu'il aura trouvé aussi.
Qu'il a un peu préparé. C'est un peu les deux aussi. Quoi. Mais on est un peu sur ce support-là, sur une espèce de glissement comme ça sonore sur une platine qui s'écoute puis qui disparaissent en fait. Quoi. C'est un peu l'idée. Quoi.
Vous avez prévenu les ingé-sons qu'ils n'auront plus de tête de lecture après sur les...
Ouais, ça c'est un peu le truc. Quoi. C'est un peu le truc. On apporte les vôtres.
Vous amenez les vôtres. Ouais. Là, ça, c'est ce que je voyais l'autre fois. Là. C'était juste magnifique. Là, les disques qui dansaient comme ça sur la. Ils partaient en l'air et tout, avec le bras.
C'était un disque de Jean-Sébastien Bach sur lequel c'était collé du papier parce que du coup le disque avait subi un dégât des eaux. Quoi. Donc la pochette intérieure était collée sur le disque et donc ça a virevolté comme ça. Et magnifique. Du coup ça collait bien avec la musique finalement. ce mouvement du bras se balançant et retombant. Alors, il suffisait juste d'alléger un peu le poids de la tête de lecture pour... Une belle pièce chorégraphique sur disque.
C'est très très beau.
Il y a du tuning à faire pour chaque disque, adapter les poids et tout ça.
Ouais, mais l'idée est pas trop tricher quoi. Moi j'aime bien hein, les objets bruts. Moi, c'est un peu mon truc quoi. Je suis pas un artiste.
Ok, super. Merci Patrice.
Merci beaucoup. Ouais.
Merci.
On est toujours sur Radio Sonic Protest.
On est toujours sur Radio Sonic Protest et on écoute quelque chose de complètement différent.